Le 14 janvier, une foule immense de personnes manifestait à Bamako, la capitale malienne. La raison de cette forte mobilisation, les sanctions prises par la CEDEAO quelques jours plus tôt envers le Mali. Fermeture de ses frontières, gel des avoirs, embargo. Qu'est-ce que la CEDEAO ? La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est une organisation intergouvernementale créée en 1975 avec un rôle initial économique et de maintien de la paix sur son territoire. La situation de guerre dans laquelle se trouve le Mali actuellement remonte à 2012 avec l'arrivée de groupes terroristes dans le nord du pays, puis l'installation de troupes armées françaises connues sous le nom d'Opération Barkhane. Pour parler de cette histoire et de la situation politique actuelle, nous avons rencontré plusieurs personnes lors d'un rassemblement en solidarité avec le peuple malien, organisé à Lille, samedi 22 janvier, à l'initiative du collectif des sans-papiers 59, du collectif Afrique et du Front uni des immigrations et des quartiers populaires, événement également soutenu par l'association des étudiants maliens. Nous avons donné la parole à Fodé Roland Diagne, l'un des organisateurs, et Seydou Koulibaly, membre de la communauté malienne, qui reviennent avec nous sur les prémices de cette guerre au Mali.
Voilà un pays qui, depuis bientôt une dizaine d'années, est complètement été infesté de djihadistes, de terroristes et de séparatistes, parce qu'on en parle moins, très clairement. Et ce pays a décidé progressivement de faire appel en fait, à ses amis, pensant avoir des amis, qui était la France, qui était effectivement le groupe, le G5 Sahel, comme on dit, qui était l'AMINUSMA, donc effectivement l'organisme représentatif de l'ONU en tant que tel. Et ces armées, depuis une dizaine d'années, sont là sur le terrain. Et plus ils sont là, plus elles sont là, plus effectivement les djihadistes, les terroristes continuent à sévir dans le pays.
En fait, ces djihadistes, comme on les a appelés, ce sont des militaires, enfin des anciens soldats de l'armée libyenne qui a explosé avec l'assassinat, enfin la mort de Kadhafi. J'appelle ça assassinat, mais on va être modéré, avec la mort de Kadhafi. Oui, mais une fois éliminé, c'était la pagaille. Ça créait une pagaille dans l'armée libyenne qui a implosé, donc tout le monde est parti. Les cadres, les officiers supérieurs, tout. Et voilà que ces gens-là, ils ont pris la route et ils se sont servis avec il y avait du matériel à disposition, des engins de guerre. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils sont arrivés au Mali. Le Mali aurait dû leur imposer le désarmement. Posez les armes, je vous accepte. Après, ils ont revendiqué. Allez, avec la complicité des séparatistes, parce qu'il y a Fodé parlait tout à l'heure des séparatistes, en fait, il y a un mouvement Touareg qui est là depuis quelques années aussi. Donc ils se sont alliés avec ces Touaregs-là pour s'implanter d'une façon, avec parfois des conflits entre eux. Hein. Un djihadiste, c'est quelqu'un qui fait la guerre de religion. Or, ils n'avaient rien de religieux. Ce n'étaient pas des musulmans, comme on veut bien le dire. Ce sont des militaires d'abord. Comme ils se réclament djihadistes, ils ont commencé à créer une terreur dans la population. Vous n'êtes pas musulmans ? Allez, on vous égoue. Vous êtes obligés d'être musulmans. Eux-mêmes, ils n'étaient pas musulmans pratiquants parfois. Hein. Mais à travers la religion, ils ont terrorisé la population. Une jeune fille, comme en Afghanistan aujourd'hui, une jeune fille qu'on voit dans la rue avec un garçon avec lequel il n'est pas marié, boum, on la tape, on l'oblige à mettre le foulard, bref. Donc toute cette situation confuse dans le Nord a abouti à avoir des groupes terroristes, djihadistes, enfin un mélange indéfinissable hein, qui s'est répandu après dans tout le pays aujourd'hui. Tout le Mali est concerné par ce phénomène parce que les bandits en ont profité pour s'allier avec tous ces gens-là.
comprendre la situation politique actuelle, revenons 2 ans en arrière. Au printemps 2020, de fortes mobilisations secouent le pays en réaction à la politique menée par le chef du gouvernement, Ibrahim Boubacar Keïta, dit IBK, élu en 2013. Un mouvement d'opposition voit le jour, le M5-RFP, à savoir Mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, qui appelle à de nombreuses manifestations. 2 mois plus tard, le 18 août 2020, un groupe de militaires à la tête duquel le colonel Assimi Goïta arrête le président IBK qui démissionne le lendemain. Les putschistes créent un comité national pour le salut du peuple, CNSP, et nomment un gouvernement de transition. Baen Dao comme président et Mokhtar Wane comme premier ministre. Le 24 mai 2021, Assimi Goïta déclenche un second coup d'État, car insatisfait de la politique menée par le gouvernement de transition qu'il a lui-même nommé. Il est resté depuis à la tête des autorités maliennes. C'est d'ailleurs suite à ce coup d'État que le Mali est exclu de la CEDEAO.
Est-ce que vous avez un peu des retours de ce que des gens du peuple malien revendiquent en fait, là-bas sur place?
Le peuple malien, c'est clair, hein, il revendique effectivement que non aux sanctions actuelles de la CEDEAO. Il rejette complètement ces sanctions-là. Il soutient effectivement la transition avec l'objectif prioritaire dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir libérer le pays, unifier le pays.
Est-ce que vous pouvez revenir sur les sanctions de la CEDEAO pour le Mali qui sont en vigueur depuis quelques semaines?
Les sanctions de la CEDEAO, on peut les résumer en quelques mots. C'est 1. Fermer les frontières maliennes. 2. Bloquer les avoirs du Mali. 3. Geler les avoirs du Mali aussi, très concrètement. 4. Empêcher le Mali d'emprunter dans les institutions financières, effectivement, telles qu'internationales, en tant que telles. Donc, voilà, ce sont les principales mesures. Or, aucune de ces mesures ne peut relever en tant que telle, effectivement, de la CEDEAO. C'est lui ou moi, c'est-à-dire l'Union économique monétaire, en fait, il y a la zone CFA, dans laquelle le Mali participe depuis 1984, très clairement, après avoir eu une période effectivement d'indépendance relative par rapport en fait au monétaire, sa propre monnaie en tant que telle. Eh bien, c'est l'IOBOA qui peut effectivement éventuellement prendre de telles décisions qui seraient de toute façon fallacieuses et inacceptables de ce point de vue. Quoi.
Pour comprendre la raison de telles mesures qui touchent avant tout la population, il faut remonter aux assises nationales de la refondation de l'État malien, mise en place en décembre dernier par le gouvernement d'Assimi Goïta. Cette série de consultations auprès de la population a rendu ses conclusions le 30 décembre, demandant le report des élections gouvernementales prévues en février de cette année à 5 ans. Les raisons invoquées sont l'impossibilité de tenir des élections dans la situation d'insécurité que vit une partie de la population, avec la présence de terroristes, ainsi que la priorité donnée aux autorités actuelles, militaires, de combattre ces groupes djihadistes. C'est donc le 9 janvier à Accra, au Ghana, que la CEDEAO a réagi à la décision de ses assises en sanctionnant très fortement le Mali avec l'appui de la France.
Et il est clair que les peuples ne peuvent pas accepter ça, y compris la diaspora ne peut pas accepter ça. C'est pour ça qu'on a appelé à ce rassemblement aujourd'hui pour dire ensemble non, on n'accepte pas effectivement ces mesures effectivement répressives de la part d'autres pays frères effectivement du Mali. Qui sont représentés par des gouvernements qui sont complètement des gouvernements, je dirais, apatrides. Hein. Il faut les qualifier comme tels qu'ils sont. C'est le gouvernement apatride qui peut prendre une telle décision, quoi, très concrètement.
La réaction des peuples, parce qu'il y a le peuple malien, il y a les autres peuples des autres pays. Le Mali a quand même une dizaine de frontières. Il faut fermer les frontières du Mali avec ces pays-là, c'est de la bêtise. Alors, la population de ces pays dont le Mali est coupé réagissent à leur tour, refusent cette décision de la CEDEAO. Je vois d'ailleurs un panneau de la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau, ils disent non à la décision de la CEDEAO. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le peuple malien, qui est un peuple très fort, qui donne parfois l'impression d'être soumis, mais réagit et réagira avec force. Parce que les fermetures de frontières, c'est impossible à mettre en pratique.
Le Sénégal, c'est impraticable la sanction. Le Sénégal dépend, c'est 500 milliards de francs CFA qui vont disparaître dans l'économie sénégalaise s'il y a des sanctions entre le Sénégal et le Mali. Je rappelle qu'effectivement, c'est la principale porte de sortie du Mali vis-à-vis effectivement de là, le Mali est en train de diversifier. Le premier avion de Skype Mali va ouvrir effectivement une nouvelle ligne aujourd'hui. Aujourd'hui même, ils inaugurent une nouvelle ligne entre Bamako et Conakry. Donc, la possibilité de que la Mauritanie aussi soit une porte d'entrée pour ravitailler effectivement le Mali aussi en tant que tel. Et sans compter l'Algérie. L'Algérie qui est au nord, très concrètement, qui est aussi, c'est par là que les Russes sont passés. Pour venir effectivement aider l'armée malienne, c'est par là que les Russes sont passés. Donc c'est clair, c'est des sanctions qui sont vouées à l'échec en tant que telles. D'autant plus qu'à la frontière sénégalaise, depuis une semaine, il y a des populations qui viennent à la frontière sénégalaise pour protester contre effectivement les sanctions.
Ces sanctions imbéciles qui nous sont imposées injustement, eh bien, ces sanctions n'iront pas loin. Je vous ai dit tout à l'heure, aussi bien le peuple malien que les peuples des pays frontaliers refusent ces sanctions. C'est vrai, les commerçants sénégalais, ivoiriens, les frontières sont bloquées par les camions de marchandises à la frontière ivoirienne et malienne.
Quel est aujourd'hui le lien entre, d'après vous, CDAO, France ? Est-ce qu'il y a politiquement des choses qui vont de l'un à l'autre ?
Mais c'est clair, le peuple malien le dit dans les manifestations, la manifestation où des millions et des millions de Maliens sont sortis la semaine dernière, pour dire effectivement qu'ils condamnaient en fait ces sanctions qui sont prises par la CDAO. Concrètement quoi, à ce niveau-là. Il est clair que les chefs d'État effectivement de la CDAO, au moins un, parce qu'il y a au moins quelques chefs d'État qui n'étaient pas là à ce sommet, qui a décidé effectivement de sanctionner. Bouhari n'était pas là, du Nigeria, très clairement, en tant que tel. Ouéa n'était pas là non plus, ainsi que le Libéria. Libéria et la CDAO n'étaient pas là, en tant que tel. Très clairement, sans compter la Guinée qu'on a créée et la Guinée qui est aussi menacée par la CEDEAO. La Mauritanie n'est pas membre de la CEDEAO, elle a quitté la CEDEAO il y a longtemps, très clairement quoi. Donc voilà, il est clair que ces chefs d'État-là sont couchés face effectivement au dictat et à la volonté de Macron tout simplement aujourd'hui, ou hier effectivement de Hollande. Très nettement, je veux dire, voilà l'enjeu tel qu'il se pose effectivement à ce niveau-là, quoi. Et c'est vrai que l'enjeu fondamental de ce qui se déroule en fait aujourd'hui au Mali, c'est un enjeu africain, parce que quelque part, c'est la première fois qu'il y a une menace sérieuse sur ce qu'on appelle le précaré français, c'est-à-dire France-Africain. La France-Afrique jusqu'à présent régnait sans coup férir, sans aucune contestation quasiment. Et bien là, pour la première fois, des peuples se lèvent et disent voilà. L'exemple hier, il y a eu effectivement une répression contre une manifestation de solidarité avec le peuple malien au Burkina Faso, de la part de Roch Kabore, quoi, très concrètement, qui lui était à ce sommet-là, en tant que tel. Qu'est-ce qui va se passer si les populations effectivement de la Côte d'Ivoire descendent dans la rue face à Alassane Ouattara, qui est un peu la tête de file de toutes ces sanctions en réalité, très clairement pour dire effectivement que non, solidarité avec le peuple malien, etc.
Les pays d'Afrique ne sont pas maîtres chez eux. Je veux dire, les dirigeants sont, j'allais dire, des petites mains de la France. Il faut, parce que les cinq qui ont décidé au niveau de la CDAO, mais c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est la France. Hein. Le président actuellement au pouvoir, c'est la France. C'est grâce à la France qu'il est là. Et il faut que les Français sachent, et ça, c'est parce qu'on ne le dit pas, lorsque Total exploite du pétrole au Gabon, lorsque Total exploite du pétrole au Nigeria, lorsque Total exploite... Mais les gens, il faut qu'ils prennent conscience que le pays ne profite pas de ça. Le pays ne profite pas. Au contraire, ils polluent les terres. Les terres sont polluées parce qu'ils ne prennent pas les mesures qu'il faut pour protéger les sols. Il y a des milliers d'hectares au Nigeria qui sont incultivables à cause du pétrole. Ça, c'est aussi un phénomène économique qu'il faut dénoncer. Au Gabon, le Gabon, qui produit aussi du pétrole, Elf Gabon, savez, Elf du Gabon, c'était le bras armé de la France, le bras économique armé de la France en Afrique. C'est-à-dire toutes les recettes de Elf Gabon, c'était la France qui embauchait. La France, depuis un moment, est en difficulté au Mali. D'ailleurs, le président a décidé de retirer les troupes. Pourquoi ? Parce qu'il voit qu'il n'arrive pas à résoudre le problème des djihadistes, volontairement ou involontairement. Moi, j'ai rencontré un jeune des forces Barkhane ici à Léquin, au mois d'octobre. Qui étaient revenus pour les 4 ou 6 mois, parce qu'ils sont obligés de faire une coupure. Il m'a dit clairement, je ne sais pas ce qu'on fout là-bas. Mais il dit, je ne peux pas le dire parce que je suis militaire. La grande muette. Mais tout le monde se rend compte que ça ne sert à rien. La France a dit dernièrement qu'elle retirait les soldats. Mais non, elle ne les retire pas. Elle les redéploie. Ce n'est pas la même chose. Elle les redéploie là où elle a des intérêts fondamentaux, vers la frontière du Niger. Vous savez que la France exploite de l'uranium au Niger. Alors, pour que les centrales nucléaires tournent, la France est obligée de protéger cette zone-là.
Il y a des parties du territoire dans lesquelles sont présents, par exemple, l'armée française, mais l'armée du pays, les FAMA, l'armée malienne ne peut pas accéder. Par exemple, Kidal, on l'empêche d'accéder, effectivement. L'État ne peut pas accéder à Kidal. Ça veut dire quoi, ça, concrètement? Donc, ce sont ces interrogations qui ont débouché sur, effectivement, cette prise de volonté, cette volonté exprimée du peuple malien de dire, ben, y en aura le mal, on va trouver, effectivement, les moyens de nous libérer par nous-mêmes. Pour cela, on va élargir, exercer notre droit souverain, d'élargir les alliés. Et c'est comme ça qu'ils sont adressés aussi à la Russie. Et c'est depuis qu'ils sont adressés à la Russie qu'on constate, en fait, que concrètement, là où, en fait, il y avait une sorte d'acceptation en fait de la transition jusqu'à présent, et bien tout d'un coup on commence à dire bon tiens, des sanctions contre le peuple malien, contre le Mali.
Qu'est-ce que vous pensez du fait que si c'est pas des militaires français, ce serait des militaires russes? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que finalement ça peut mener dans les mêmes impasses? Qu'est-ce que vous en pensez?
L'idéal c'est d'avoir des militaires maliens pour tout dire. La solution, c'est des militaires maliens, des vrais, une vraie armée malienne. Bah oui, bien formée, hein, avec des moyens. Bon, c'est pas le cas. À choisir entre les deux, bon, je rappelle que le Mali a son indépendance en 1960. C'était rapproché de l'URSS. Bah oui. Il faut le rappeler, ça. L'URSS n'est pas arrivé comme ça. J'ai un copain qui est chirurgien, qui est à la retraite. Il a fait ses études en URSS. D'autres ont fait leurs études en URSS. Les militaires actuellement au pouvoir ont été formés en URSS. Donc le Mali a des liens historiques avec l'URSS.
Mais est-ce que vous pensez réellement que ces militaires ou mercenaires, je ne sais pas comment les appeler, est-ce que vous pensez qu'ils viennent uniquement pour aider le peuple malien et l'armée malienne, ou est-ce qu'il y a, comme pour finalement l'armée française, des arguments un peu...
Quel que soit le pays, aucun pays n'agit sans intérêt. Mais oui, ce pas des philanthropes. Si la Russie intervient, c'est qu'elle a un intérêt à intervenir au Mali. Parce qu'elle veut occuper le terrain abandonné par la France. Parce que si la France avait joué le jeu depuis l'indépendance, on appelle ça le néocolonialisme, ce qui est même pire que le colonialisme. Ben oui, il faut le dire. Et honnêtement, la situation, elle est tellement confuse que d'abord il faut poser les choses clairement. Il faut revenir à une démocratie qui a existé pendant 20 ans et qui a été démolie suite à un coup d'État. Mais il faut revenir au principe de la démocratie comme on l'a connue. Il y a des institutions au Mali. Il y a des institutions. Il y a eu une constitution malienne. Oh, mais la constitution malienne date de au moins de l'installation de la démocratie depuis 90, dans les années 90.
Quel est l'espoir de changement du coup au Mali avec toutes ces personnes?
Ben, l'espoir, il est dans les deux camps. Hein. Il est du côté des Maliens d'abord, parce que moi, je crois fondamentalement à la puissance du peuple malien, parce que le Mali s'est toujours relevé et il va se relever, parce que le Mali, historiquement, d'abord c'était un empire, hein, bon, sans aller dans le détail. Donc le peuple malien est très fort.
Lors de ce rassemblement à Lille, nous avons également rencontré Awa Djabira, mauritanienne, venue au rassemblement lillois par solidarité avec le peuple malien, avec les pays africains et surtout avec les femmes du continent.
Je pense que chaque pays a le droit d'avoir, je ne dis pas le dernier mot, mais d'avoir son mot à dire quoi, concernant l'avenir de son pays. Donc je trouve, je suis venue les soutenir parce que j'aimerais bien qu'on les laisse s'exprimer, qu'on les laisse avancer.
Vous pensez notamment au fait qu'il y a des puissances comme notamment la France qui essayent de prendre des décisions à la place du gouvernement malien ou du peuple malien, c'est à ça que vous pensez?
Oui, il y a ça, mais il y a aussi l'intérieur de l'Afrique tout simplement. Les États d'Afrique, ils doivent se soutenir, ils doivent connaître l'intérêt de chaque pays. C'est surtout les pays africains qui doivent être aujourd'hui des vrais adultes quoi.
Vous pensez notamment à la CEDEAO qui a mis des restrictions au niveau du Mali?
Oui, je me demande pourquoi ils ont fait ça et qu'est-ce qu'ils reprochent au peuple malien pour faire ça? C'est quoi leur but en fait, la CEDEAO? C'est quoi son but et qu'est-ce qu'il veut vraiment? Au contraire, il faut aider les pays à se développer. Tout ça empêchera les jeunes de prendre des bateaux, de venir mourir en mer. On doit plutôt encourager les pays à se développer, à donner du travail à leurs enfants, aux enfants du pays. Des écoles pour que les enfants étudient, des dispensaires. Mais aujourd'hui, quand tu vas dans ces pays-là, ils sont tellement serrés et pourtant il y a de la richesse. Il y a une richesse qui peut vraiment permettre à ces pays de se développer et que chacun puisse manger à sa faim. Donc tout ça c'est une injustice quoi. Nous ce qu'on aimerait aujourd'hui c'est qu'on laisse l'Afrique se développer. Moi je compte beaucoup sur les femmes enfin, pour ce genre de choses. Que l'Afrique, ils ont pris leur indépendance en 1960 et on est en 2022, c'est incroyable.
Et d'après vous, qu'est-ce que les femmes ont un peu en plus, entre guillemets, qu'est-ce qu'elles pourraient permettre comme émancipation?
Déjà, l'éducation. Parce qu'il y a certains peuples du Mali, comme en Mauritanie, au Sénégal, où la femme n'a pas beaucoup droit à l'éducation. Je ne dis pas qu'elle ne va pas à l'école, elle va à l'école, mais il y a des pays encore où la femme elle va arrêter rapidement ses études parce qu'elle doit se marier. Du coup, tout ça, ce n'est pas juste parce que c'est d'abord l'instruction, qu'elles se soutiennent entre elles. Parce que dans tous les pays d'Afrique, les femmes, elles sont vraiment très courageuses. Elles sont les premières à se lever et les dernières à se coucher. Donc ça, tout le monde le sait. Elles sont partout, elles sont dans le développement. Et ici, en Europe, du fait qu'elles n'ont pas beaucoup étudié, ça, pas tout le monde, hein. Il y a certains pays où la femme, elle a beaucoup étudié. Moi, je pense que l'avenir, c'est la participation de la femme. dans, au sein de la politique. Et puis, voilà, elles sont là, elles essayent de parler un peu plus fort pour qu'elles les entendent. Elles subissent beaucoup d'injustices. Hein. Il y a beaucoup d'injustices, c'est parce qu'on ne dit pas tout. Hein. Quand il va dans certains pays d'Afrique, quand il y a la guerre, ce sont des femmes qui sont violées, qui sont tuées. Mais ça, on n'en parle même pas assez. Je trouve ça injuste. Et il y a certains pays, la femme, elle n'a pas beaucoup de droits. Même être présidente d'une association, c'est bientôt banni, quoi. Où elle doit... Elle, y a plein de choses. Il y a plein de choses. Et aujourd'hui, donner un peu la possibilité à ces femmes d'étudier, d'avoir des soins, et puis d'avoir aussi la parole, au fait, dans les réunions, dans les assemblées. Voilà, ça commence un peu, mais bon.
Un grand merci à Fodé Rolandiagne, Seydou Koulibaly et Awa Diabira. Un reportage réalisé par Elsa de Micro Rebelle. Avec les musiques de Ali Farka Touré, Toumani Diabaté, ainsi que Oumou Diabaté.